Effacement. Mercredi 30 juin 2021. Clyde Tolson Resort, New York. Minuit 43. Dans l'immeuble du FBI, tous les écrans affichent désormais les chaînes d'information en continu et l'équipe du protocole 42 les regarde diffuser en boucle le double assassinat. Une heure. CBS diffuse une émission spéciale. Un Stephen Colbert catastrophé anime un plateau avec des journalistes spécialistes du fait religieux. L'appel à l'apaisement qu'ont élaboré Pudlowski et ses experts n'aura servi à rien. Sur Hope Channel, les prêches dénoncent la vénération des faux prophètes. Et sur Fox, des télé-évangélistes condamnent le crime comme il se doit, mais éructent et parlent de fin du monde. Au matin, les sondeurs de Gallup et d'autres écumeront les rues. 44% des Américains estiment que c'est un signe de la fin des temps. 34% parmi eux pensent que cette fin est proche. 25% même très proche. On en trouve 1% pour penser qu'elle a déjà eu lieu. Et dans la journée, partout dans le monde, les lieux de culte connaîtront une affluence inconnue. Quand 7 milliards d'êtres humains découvrent qu'ils n'existent peut-être pas vraiment, la chose ne va pas de soi. Une Jamie furibonde arpente à grands pas la salle de conférence du Clyde Tolson Resort, où s'est déportée désormais toute l'équipe du protocole 42. Elle répète « Il faut garantir l'anonymat de tous les passagers. Comme les témoins des procès mafieux, ces gens doivent pouvoir s'évanouir, changer d'identité. » Elle l'avait bien dit pourtant que Dieu serait un problème. Puisque rien ne doit contester son omnipotence, ce Boeing surgit de nulle part s'inscrit dans son dessein. L'ironie est que dans l'hypothèse d'une simulation, une chose n'est plus guère contestable. L'homme est bien la création d'une intelligence supérieure. Mais qui est prêt à adorer le développeur d'un monumental jeu de rôle? Depuis l'annonce du président, intervient Mitnick, les entrées des hôpitaux font état d'une vague de suicides. Beaucoup de gens déjà fragiles sont passés à l'acte. Les thèses complotistes ont la cote. Toute l'affaire est un montage. Cette histoire de simulation vise à rendre dérisoire toute lutte contre quoi que ce soit, du capitalisme au réchauffement climatique. Les partisans de la Terre plate y voient une confirmation de leurs convictions, et j'en passe. Toujours se méfier des gens qui nous demandent de nous méfier, résume Pudlowski. Les extraterrestres font aussi un formidable comeback, continue Mitnick. Mais là, bon, comment l'éviter? Il y a cette fille aussi. Tommy Jane, une influenceuse, elle vient de poster ça. Mitnick projette sur un écran le selfie d'une fine femme brune asio-américaine. Il a déjà 1512 likes. Son front s'orne d'une boucle de cheveux écarlate sous les mots 1-2-1000 Adriana. À 2h du matin, il est partagé 12816 fois. Il le sera 7 millions de fois à 8h et au matin, partout. De Paris à Rio, de Hong Kong à New York, ils sont des milliers à marcher dans les rues avec la mèche teinte en rouge d'Adriana June. Le message est flou, mais la liberté de penser sur Internet est d'autant plus totale qu'on s'est bien assuré que les gens ont cessé de penser. Quelques heures encore et l'empathie, l'émotion et le dérisoire étant des affaires qui marchent, les vendeurs de t-shirts offrent des « Stimulate me, don't simulate me ». The I'm a program, reset me. I'm one, you are two, we are three. Les humoristes des émissions matinales s'essaient à des sketchs sur la duplication. Vous savez ce que c'est une simulation, Hillary? Demande le journaliste à l'imitatrice. Peter, répond la voix de Hillary Clinton, toutes les femmes en Amérique savent ce que c'est que la simulation. Jusque-là, une petite centaine de savants spéculaient dans un hangar. Soudain, ce sont 10 millions de chercheurs sur la planète qui doivent débattre de leur théorie, en proposer une alternative. La photocopieuse et le trou de verre trouvent d'emblée peu d'adeptes, tant pis si la théorie la plus simple est aussi la plus cinglée. Pourtant, la simulation, les astrophysiciens ne l'aiment guère. Les agences spatiales encore moins. Explorer l'espace coûte déjà cher, mais s'il n'y a pas d'espace, c'est soudain hors de prix. Les théoriciens des particules n'apprécient pas non plus, et toutes leurs belles particules, les quarks, les gluons, la matière noire, tout serait virtuel. Et leurs gros accélérateurs dont ils sont si fiers, une vaste blague en 3D? Et le temps? Si le temps lui-même est un artifice, comme il l'est dans un jeu vidéo où tout est calibré et ralenti pour qu'un humain puisse avoir une chance de jouer, comment mesurer le temps réel à partir de notre temps virtuel? Enfin, ce sont les biologistes qui s'indignent. Et l'évolution et la disparition des espèces, la perte de la diversité biologique. Mais tous le savent, l'univers, virtuel ou pas, est tout entier régi par des lois de mieux en mieux connues. Pas un de ces scientifiques qui ne se livre depuis des années à quelques simulations avec un supercalculateur dont la puissance en 10 ans a été multipliée par 100. Il imagine sans peine le pouvoir de machines des milliards de fois plus puissantes. Mieux vaut ne pas mesurer la productivité le mercredi matin. De fait, les seuls à travailler vraiment sont les hommes et les femmes du protocole 42. Car ce mercredi matin débute l'opération Hermès. Meredith a trouvé le nom de code qui dit le voyage est le secret pour tous les passagers du vol 006. Le moment est venu de l'évanouissement. Le crime de Jacob Evans aura au moins achevé de convaincre les passagers qu'ils sont des cibles, et aux États-Unis au moins, tous consentent. La NSA a fait disparaître toute trace numérique du vol, les agents français et américains ont récupéré les feuilles de vol. Le public sait qu'il s'agit d'un Paris-New York d'Air France en mars, mais il y en a eu plus de 200. Mercredi 30 juin 2021, Studio 4, France 2, Esplanade Henri de France, Paris. La vérité est que le monde entre en quelques heures dans une vacuité de sens. Puisque la religion fournit une réponse doctrinale et fausse, la philosophie se propose d'en donner une abstraite et erronée. Partout dans le monde, les talk-shows se multiplient, et surtout en France, ce pays a la concentration en philosophes médiatiques légendaires. L'un d'eux s'appelle Philomède. Admettons, le voilà sur le plateau d'une chaîne nationale avec un autre invité, Victor Mizel. « Je ne veux pas me prononcer, » dit Philomède, « sur cette idée d'une simulation, mais d'après moi, cela ne changerait rien. Je suis matérialiste, il n'y a pas de différence entre penser et croire penser, et donc entre croire exister et exister. » « Tout de même, Philomède, » dit l'animatrice, « ce n'est pas tout à fait pareil si nous existons vraiment ou si nous sommes virtuels. » « Pardonnez-moi, mais si, c'est pareil. Je pense, et si même je ne suis qu'un programme pensant, je suis. » Je ressens l'amour et la douleur de la même façon. Je mourrai tout aussi bien, merci. Et mes actes ont les mêmes conséquences, que mon monde soit virtuel ou réel. Philomède, à côté de vous, un écrivain, Victor Mizel, dont le livre L'Anomalie est devenu un livre culte et l'est évidemment plus encore aujourd'hui. Victor, vous avez été à bord de cet avion. On sait que votre double s'est donné la mort. Vous venez de faire une conférence de presse cet après-midi et nous vous remercions d'être là avec nous. Qu'imaginez-vous du destin de ces passagers dédoublés? Nous sommes plus de 200 à regarder les chemins empruntés par nos doubles entre mars et juin, à regretter peut-être de n'avoir pas préféré bifurquer. Certains peuvent avoir envie de faire autrement, ou mieux, ou autre chose. Mais moi, je ne me suis pas retrouvé face à moi-même. Quoique... L'écrivain sort les deux briques rouges de sa poche. Depuis la mort de mon père... Il y a plus de 30 ans, je gardais toujours dans ma poche une briquette. Ce n'était ni un fétiche, ni un porte-bonheur, juste quelques grammes de souvenirs, presque une habitude. On m'a rendu celles que conservait le Victor qui s'est suicidé, et elles sont désormais deux. J'ai oublié laquelle est laquelle, et je les ai unies. Je ne saurais dire ce qu'elles symbolisent, mais j'ai l'impression d'avoir plus de choix, d'être plus libre que jamais. Malgré tout, je n'aime pas trop ce mot de destin. Ce n'est qu'une cible qu'on dessine après coup à l'endroit où s'est fichée la flèche. Dans le public, Anne Vasseur, la journaliste du Times Literary Magazine, s'amuse. Elle préfère cette autre blague qui dit que pour qu'une flèche atteigne la cible, il faut qu'elle ait tout raté avant. Lorsqu'elle a appris la mort de Victor, en avril, elle a été choquée, peinée, et l'intensité de ce sentiment l'avait étonnée. Bien sûr, elle l'avait remarqué à Arles. Elle avait trouvé son intervention intelligente et sensible. Au dîner, elle avait été touchée par ses efforts de gosse pour l'aborder. Elle était alors prise dans d'autres liens. Elle n'avait pas voulu jouer. Puis elle avait détesté ce moment de faiblesse, de facilité, d'orgueil. Elle avait détesté lui plaire justement parce qu'il lui plaisait. Alors elle avait quitté Arles plutôt que prévu, honteuse d'un désir égoïste et inconséquent, refusant d'être une femme qui trahit, qui jouit, qui fait souffrir et finit par ne plus savoir où elle habite. Elle avait fui. Elle aurait à l'instant préféré avoir des remords plutôt que des regrets, mais elle n'avait jamais voulu trouver de prétexte pour retrouver ce traducteur de Gontcharov. Elle avait lu cette résurrection prodigieuse comme un signe incompréhensible, mais un signe malgré tout. Et elle, la littéraire, avait obtenu de la rédaction en chef du Times de remplacer à cette conférence l'envoyé spécial. Maintenant, elle regardait un homme qui pouvait être un long moment, justement, un destin. Et dites-moi, Philomède, reprend la journaliste, dans cette situation, comment réagiriez-vous?
D'abord, je n'aurais pas longtemps une sensation d'irréalité. Si je doutais d'exister, il me suffirait de me pincer. Ensuite, cet autre est un miroir sans complaisance, d'accord, mais c'est surtout le seul être à tout savoir de moi, de mes secrets. Ainsi exposé, je pourrais décider de changer ou, enfin, être deux dans une seule vie, c'est être un de trop. Je me dirais sûrement, quelle vanité, l'appartement, l'emploi, toutes ces choses matérielles, je me concentrerais sur mon noyau intime, sur ce que je dois préserver à toute force. J'ai une fille, j'aime une femme. Et lorsque je dis « ma femme », « ma fille », je sais ce que je mets dans ces « ma ». Si je devais les partager, j'apprendrais peut-être à relativiser ce désir de possession. La vérité, c'est que j'ignore comment je réagirais.
Comment expliquez-vous la déclaration du pape François ?
Pardonnez-moi, je ne sais absolument pas ce qu'a dit le pape.
Je cite « Dieu offre à l'humanité un signe de sa toute-puissance et la chance d'abdiquer devant elle, de se conformer à ses lois. »
Il a dit ça ?
Ce matin.
Ça vous a un petit côté « repentez-vous, pauvre pécheur ?» qui me pardonne, mais de lui je m'attendais un peu mieux. Cela dit, c'est le logiciel de tous les religieux. Voici nos croyances, trouvons les faits qui les prouvent. Comme le pangloss de Voltaire, il croit que les nez ont été faits pour porter des lunettes et que c'est pourquoi nous avons des lunettes.
Dans cette affaire, je n'ai ni entendu Dieu ni ne l'ai vu apparaître dans les nuages. Franchement, s'il avait eu quelque chose à nous dire, c'était le moment ou jamais. Au point où nous en sommes, non, la seule vraie démarche philosophique et scientifique reste celle-ci. Voici les faits, voyons quelles sont les conclusions possibles. Et pour le reste d'entre nous, Victor Mizel, à votre avis, si vous deviez prédire ce qui va maintenant se passer?
Rien.
Pardon?
Rien?
Rien ne va changer? On se réveillera le matin, on ira travailler parce qu'il faut toujours payer son loyer, on mangera, on boira, on fera l'amour comme avant. On continuera à agir comme si nous étions réels. Nous sommes aveugles à tout ce qui pourrait prouver que nous nous trompons. C'est humain. Nous ne sommes pas rationnels. Ce que dit Victor Mizel est un peu, Philomède, ce que, dans votre article ce matin dans le Figaro, vous appeliez notre besoin de réduire la dissonance cognitive.
Oui, nous sommes prêts à tordre la réalité si l'enjeu est de ne pas perdre tout à fait. Nous voulons une réponse à la moindre de nos anxiétés et un moyen de penser le monde sans remettre en cause nos valeurs, nos émotions, nos actions.
Regardez le changement climatique. Nous n'écoutons jamais les scientifiques. Nous émettons sans frein du carbone virtuel à partir d'énergies fossiles, virtuelles ou non. Nous réchauffons notre atmosphère, virtuelle ou non, et notre espèce, toujours virtuelle ou non, va s'éteindre. Rien ne bouge. Les riches comptent bien s'en sauver. Seuls en dépit du bon sens, et les autres en sont réduits à espérer. Vous êtes d'accord avec Philomède, Victor Mizel?
Évidemment.
Vous vous souvenez de Pandore et sa boîte?
Oui, s'étonne la modératrice, mais quel est le rapport?
Il y en a un. Souvenez-vous. Prométhée a volé le feu du ciel, et Zeus, pour se venger de lui et des hommes blasphémateurs, offre à son frère Épiméthée la main de Pandore. Dans les bagages de la femme, Zeus glisse un cadeau, une boîte mystérieuse, un vase, en fait, qui lui a interdit d'ouvrir. Mais trop curieuse, elle désobéit. Tous les maux de l'humanité qu'il y a enfermés s'échappent alors. La vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la folie, la misère.
Un seul mâle est trop lent pour s'échapper, ou peut-être obéit-il à la volonté de Zeus. Vous souvenez-vous du nom de ce mâle ?
Non. Éclairez-nous, Victor Mizel.
Ce mâle, c'est Elpis, l'espérance. C'est le pire de tous les maux. C'est l'espérance qui nous interdit d'agir. C'est l'espérance qui prolonge le malheur des hommes, puisque, n'est-ce pas, contre toute évidence, tout va s'arranger. Ne peut pas être ce qu'il ne doit pas être. La vraie question que nous devrions chaque fois nous poser est celle-ci. En quoi est-ce qu'accepter un point de vue donné m'arrange ?
Je vois, dit l'animatrice. Et aujourd'hui, Philomède, vous trouvez que c'est ce qui se passe, que chacun d'entre nous trouve un moyen de s'arranger avec le réel qui nous est offert, c'est cela ?
Oui, absolument. Puis-je vous rappeler cette phrase de Nietzsche ? Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles le sont. Là, toute la planète est confrontée à une vérité nouvelle qui remet en cause toutes nos illusions. On nous envoie un signe, indubitablement. Hélas, penser prend du temps. La chose ironique, c'est que le fait d'être virtuel donne peut-être plus de devoirs encore vis-à-vis de notre prochain, de notre planète, et collectivement surtout.
Pourquoi donc ?
Parce que cela a été déjà dit par un mathématicien. Ce test ne nous est pas destiné en tant qu'individu. Cette simulation pense l'océan. Elle se moque du mouvement de chaque molécule d'eau. C'est de l'espèce humaine tout entière que la simulation attend une réaction. Il n'y aura pas de sauveur suprême. Il faut nous sauver nous-mêmes.